Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwr.fr. Bienvenue dans Biotope, une émission valorisant toutes les initiatives d'individus, d'associations, d'entreprises et d'institutions pour faire en sorte que la vallée de la Drôme soit la plus bio possible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un éco-gîte, l'Oribelle, qui a été créé par Sylvaine et Denis Moplot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, pourquoi se lance-t-on dans un éco-gîte ?
L'idée du gîte, elle est venue par hasard, parce que le volume de la maison s'est trouvé plus grand que prévu. Voilà, donc on s'est dit que le jour où on pourrait le faire, on créerait un gîte. Et l'éco-gîte, c'est juste que ça nous semblait évident, dans la mesure où on est dans une région très biologique, très agriculture biologique. Donc, c'est notre mode de vie. Ça l'est de plus en plus, ça l'est devenu de plus en plus, et on avait envie de le partager avec d'autres. Donc, quitte à faire un gîte et accueillir des gens, ça nous semblait une bonne idée de partager nos façons de voir les choses avec les gens qu'on allait accueillir.
Quelles sont les différences entre un gîte normal et un éco-gîte, comme ça, de prime abord ? Il y a des différences de conception initiale ?
C'est plutôt dans l'usage des matériaux de construction, déjà, pour le fabriquer. On utilise plutôt du bois, de l'isolant bio, on est parti sur de l'eau chaude solaire, de l'électricité économique, enfin, etc. Donc c'est la différence déjà de départ sur la construction. Pas forcément plus cher qu'en réalité avec les matériaux traditionnels aujourd'hui. Ça l'a été au départ, mais moins maintenant.
C'est un bâtiment qui est récent en fait, il n'y a pas longtemps.
La maison a 13 ans.
Et ce n'est qu'après que vous avez décidé de faire
Oui, parce qu'on s'est d'abord occupé de construire notre maison, enfin de finir notre maison. Donc, on n'avait plus de sous, donc on a attendu d'avoir des sous pour continuer cette partie.
Le gîte a été réalisé il y a 4 ans maintenant. Donc il y a eu un temps de latence ou d'adaptation de notre vie et d'apprentissage de la bio, quelque part. Parce qu'on est arrivé, on avait des notions, mais c'est sur place qu'on a vraiment...
On était dans une consommation très respectueuse, mais on n'était pas dans une consommation par rapport à l'alimentation, par exemple, aussi biologique qu'on l'est aujourd'hui. Ça, c'est venu parce qu'on est ici, parce qu'on vit ici, qu'on côtoie des agriculteurs biologiques, qu'on a cette offre et cette possibilité.
Donc c'est le territoire qui vous a influencé et qui vous a conduit à faire un gîte plutôt bio qu'un gîte traditionnel.
Complètement, oui. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais.
Et alors justement, quels sont les principaux enseignements qui différencient un gîte traditionnel d'un gîte bio alors ? Outre ce que tu m'as dit tout à l'heure, Denis, c'est-à-dire effectivement les matériaux, l'électricité, l'eau chaude, etc.
Mais après, c'est un fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple... Par exemple, le gîte a 9 mètres carrés de baies vitrées plein sud. Donc, alors l'été, c'est vrai que c'est un peu chaud, qu'on n'a pas encore tout à fait réglé la gestion de la chaleur. En revanche, en demi-saison, pour la gestion du froid, c'est idéal parce que c'est juste savoir jouer avec les rideaux, les doubles rideaux à la bonne heure pour emmagasiner la chaleur dès qu'il y a un rayon de soleil. Il est plein sud, hein, donc dès qu'il y a du soleil, sur 9 mètres carrés de baies vitrées, ça chauffe énormément. Donc savoir à quelle heure refermer les rideaux, les doubles rideaux pour garder prisonnière la chaleur à l'intérieur du gîte et ne quasiment pas chauffer avec un chauffage d'appoint. Dans le gîte, on a un chauffage d'appoint parce que c'est obligatoire pour avoir le label de l'office de tourisme. Ça fait partie des points qui sont incontournables. En réalité, cet hiver, par exemple, le logement était inoccupé. Sans chauffage, il faisait 13 degrés dedans.
Alors donc je suppose qu'on peut parler d'une bonne isolation.
Aussi, évidemment ça aide bien. Donc l'isolation en laine de bois de bonne épaisseur participe aussi évidemment à ça. Mais plus la baie vitrée qui maintient hors gel en réalité sans avoir besoin de chauffage d'appoint. Après dans la pratique ce sont les toilettes sèches aussi. Donc beaucoup de gens ont entendu parler des toilettes sèches. Mais de là à les utiliser et savoir ensuite les vider, les remettre, doser la sueur comme il faut. Enfin voilà, c'est une pratique qu'on apprend aux gens quand ils arrivent.
C'est des toilettes sèches que vous avez conçues vous-même ou que vous avez achetées toutes faites ?
Nous avons fabriqué, nous avons fait faire en fait l'étage, parce qu'il y a un étage qui a été créé pour ce gîte, mais l'intégralité des finitions, les meubles, les salles de bain, tout était fait par nous-mêmes. Donc en fait aussi avec des matériaux de récupération en partie. Les toilettes sèches, nous les avons fabriquées nous-mêmes, en ayant l'expérience, parce que nous avons nous-mêmes à l'intérieur de la maison des toilettes sèches pour nous, et dans le jardin aussi, une première expérience a été faite à l'extérieur pour appréhender la chose, pour la maîtriser. Puis maintenant, donc, on a réalisé aussi des toilettes pour le gîte nous-mêmes.
Et vous ne demandez pas aux clients du gîte de vider leurs toilettes sèches, non ?
Pour les saisons d'été, non. C'est des gens qui viennent une semaine, on s'occupe de ça. Par contre, on a des locataires à l'année et là, on leur apprend et ils le font eux-mêmes.
Ah, vous avez combien d'espace à louer, en fait ?
On a un gîte de 4 personnes, quoi, un lit, 4 lits. Pour l'été, c'est une famille, quoi, une famille en général, couple et enfant. Et là, l'hiver, là, on loue cette année l'hiver à des gens pour la saison, toute l'année. Donc là, elle gère la chose, donc c'est 2 personnes.
C'est pas du tout désagréable.
Alors, vous vous êtes déjà posé la question, mais en fait, si vous avez utilisé des matériaux de récupération, c'est pas forcément plus cher de faire un gîte bio. Au niveau de la qualité des matériaux, ça peut être plus cher quand même, tout ce qui est naturel. Bio.
Un peu plus cher dans certains cas, effectivement. Par exemple, la laine de bois est un petit peu plus chère que la laine de verre, mais à qualité autre. Donc, l'un dans l'autre, on y gagne, on y est gagnant, c'est bien meilleur. Puis aussi au niveau respectueux.
Et puis, enfin, faut voir aussi sur le long terme, c'est-à-dire que par rapport à l'isolant, la laine de bois étant de meilleure qualité, c'est nous qui. C'est l'électricité pour les gens qui sont là une semaine, par exemple, l'électricité du chauffage, c'est nous, ça serait à notre charge si on devait chauffer parce que c'était mal isolé. Vous voyez ? Parce que pour une semaine, on ne fait pas payer aux gens la consommation électrique. Donc finalement, on s'y retrouve sur le long terme, d'avoir quelque chose qui est mieux isolé au départ.
Et je vois qu'il y a du bardage extérieur, c'est du mélèze, non ?
Oui, mélèze.
Ça reste intact pendant des générations ?
C'est le mélèze tel qu'il est là dehors, il a 13 ans d'âge et sans aucun traitement en l'état tel quel. Il ne bouge pas. Enfin, il se patine avec le temps, c'est tout.
Vous avez un site internet sur lequel j'ai vu que vous vendiez le fait qu'il y ait des enduits à la chaux. Mais je ne vois pas où est-ce qu'il peut y avoir des enduits à la chaux sur un bâtiment en bois.
L'extérieur de la partie gîte est enduite à la chaux, c'est pas du bois.
Ah, je ne l'ai pas vu.
T'es passé
juste
devant.
Le bout.
Ah,
d'accord.
Juste le bout du gîte est en chaux jaune, à la chaux jaune. Voilà.
Et parce qu'il y a du bois en dessous de la chaux ?
Non, cette partie a été construite en dur. La mairie, quand on a déposé le permis de construire, ne voulait pas qu'on construise l'intégralité de la maison en bois. Ouais. Et nous a demandé, faites-nous un truc en dur traditionnel normal. Et donc, on n'avait pas d'autre moyen que faire le garage, puisqu'au départ, c'était un garage en parpaing, basique. Et puis c'est ça qu'on a transformé en gîte, en le doublant, en isolant laine de bois, puis enduit à la chaux à l'extérieur traditionnel, plus respectueux. Donc le parpaing disparaît dans le tas.
On voit que ça a évolué, puisque maintenant des maisons en bois, on en voit plein dans le Diois. Mais il y a 13 ans, il y a 14 ans, quand on a déposé le permis de construire, tout en bois, la mairie ne voulait pas.
Ouais.
Est-ce que vous avez une idée de combien ça vous a coûté pour faire tout cet ensemble de maisons, si c'est plus cher qu'une maison classique ou le bois en fait ?
Le gîte ou la maison ?
Parce que la maison est en bois, ou à part son petit garage, en fait.
Ouais, c'est ça.
Sincèrement, à l'époque, je me souviens que le garage à lui tout seul nous a coûté quasiment aussi cher que l'ossature, je ne parle pas de tout le reste, hein, de toute la maison, quoi. C'est très cher aussi, la maçonnerie.
C'est pas si cher que ça, l'ossature bois.
Bon, et nous, on a une grande maison, c'est vrai, il faut reconnaître, donc ça a un coût, évidemment, mais...
Et le fait que ça soit une maison à ossature bois est un plus pour l'éco-gîte, de type bio ? Ça respire mieux, est-ce que les gens font une association entre bio et maison en bois ?
Ça aide. Et c'est vrai que oui, la maison en bois en soi est écologique dans le principe, parce que c'est des matériaux renouvelables, le bois, par rapport à un parpaing qui est du ciment fait avec des matériaux minéraux. Le bois, c'est des arbres qui repoussent et qu'on replante.
Oui, mais d'un autre côté, je vois des plaques là, il n'y a pas des colles assez redoutables qui diffusent des arômes
plus maintenant. Mais on a eu des colles effectivement violentes pour certains panneaux, maintenant elles sont...
Celles-ci là par exemple, c'est bon, elles ne sont pas...
À l'époque, il n'y en avait pas encore. Ouais, donc c'est de la colle...
Mais dans le gîte, ce n'est pas les mêmes,
non,
c'est des plus récentes.
Les panneaux dans le gîte sont avec des colles...
Le gîte est beaucoup plus écologique que notre maison, qui à l'époque, c'était déjà un progrès, on va dire, un pas pour nous en tout cas vers l'écologie. Le gîte, il a été fait il y a 4 ans, donc pour lui, on a utilisé les derniers matériaux disponibles, les plus respectueux possibles.
Et vous avez sans doute un cahier des charges pour faire partie d'un label, non ?
Alors nous, on s'est juste inscrit à l'office de tourisme. Donc il y a un cahier des charges, effectivement. Mais c'est plus sur l'équipement.
Ouais.
C'est beaucoup plus sur le confort à l'intérieur que sur l'extérieur, le matériau de construction. Quoi.
Mais vous avez le droit de dire que vous êtes un écogite, alors, bio ?
Pour l'instant, il n'y a rien de normalisé qui impose ou pas de s'inscrire auprès de tel organisme pour posséder le mot bio. C'est valable pour la nourriture, la labellisation bio, mais pour l'instant, pas pour l'habitat.
Et de toute façon, c'est une réalité. On est un gîte écologique. Donc... je vois pas pourquoi on s'interdirait de pas le dire.
Alors, oui, alors je vais revenir à une question que j'ai déjà posée à plusieurs reprises, mais je vais y revenir. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un gîte bio et un gîte traditionnel ? Alors, vous m'avez dit les matériaux, les toilettes sèches, le mur à la chaux et un peu de fonctionnement, et je crois qu'on n'avait pas fini d'en parler.
Oui, donc je parlais de la gestion de la chaleur par rapport à l'ouverture des baies vitrées. Il y a par exemple la lessive écologique. Enfin, il y a tout le travail de sensibilisation qu'on fait en fait auprès des personnes qui sont demandeuses ou pas. Hein. Toutes les personnes n'arrivent pas en disant bon alors c'est un gîte écologique, alors comment vous vivez ? Non, pas du tout. Mais il y a des personnes qui sont curieuses et qui posent des questions. Donc dans ce cas-là, effectivement, on est prêt à répondre. Donc comme on en parlait tout à l'heure, je disais quand notre dernier enfant était en couche, étant donné qu'elle était en couche lavable, c'était par exemple si des familles venaient avec leur bébé, ça pouvait être un sujet de discussion. Je ne vais pas aller vers les gens en disant « je vois qu'il n'a pas des couches lavables ». Non, j'attends qu'on me pose la question. Si les gens remarquaient, puisqu'elle n'a plus de couche, qu'elle était en couche lavable, je dis « bah oui ». Et du coup, ça a amené des questions. C'est pas trop compliqué. Et c'est quoi l'intérêt ? Mais ça consomme beaucoup d'eau parce qu'il faut les laver. Enfin, du coup, c'est dans un travail de sensibilisation. Pareil, la lessive, donc, puisque souvent, je mets à disposition la lessive que je fais moi-même. Et du coup, on me pose des questions. Pareil, plusieurs personnes sont reparties en me demandant la recette. Donc, dans ce cas-là, je suis contente parce que je me dis que... ils ont trouvé que la lessive l'avait bien et du coup, ils vont peut-être la refaire chez eux. Et ce sera toujours ça, quoi. C'est même si c'est qu'un petit point. Bien sûr que tous les gens qui viennent, ils ne vont pas repartir installer des toilettes sèches chez eux parce que c'est pas possible quand on habite en ville. Enfin, ça devient très compliqué. Mais c'est bien d'avoir pu, je crois, échanger sur le sujet. C'est des petites graines, en fait.
Vous êtes donc assez présent par rapport à vos clients ?
Oui, on est voisins. Du coup.
Oui, on les informe aussi des boutiques bio, de tout ce qui est possible dans la région, Sourdis évidemment, pour faire ses courses selon cette approche-là. Donc ouais, on essaie d'être assez proche, en dialogue, sans les envahir non plus, sans se laisser envahir évidemment, mais
Répond aux questions.
On est présent quand il le faut. Ouais.
Donc on va pas donner l'adresse d'Intermarché, hein. La plupart du temps ils sont passés devant, quoi. Je veux dire. Donc c'est pas besoin. En revanche, s'ils demandent une épicerie ou quoi, nous on va plutôt donner une épicerie bio, on va donner la Carly. Mais de toute façon, c'est déjà dans notre livret d'accueil aussi, parce que ça fait partie des choses qu'on est obligé de laisser à disposition, un livret d'accueil. Et donc dedans, il y a les adresses des commerces, les jours de marché.
Et ça faisait partie du cahier des charges de l'Office du Tourisme ?
Oui, le livret d'accueil, oui.
Avec des activités, des idées de randonnée ou des activités sportives écologiques aussi, non ?
Oui, la randonnée en soi, oui.
Voilà,
forcément.
C'est vrai que nous, on mettra pas du karting ou je sais pas quoi.
Genre quad, non, tout ça, les centres.
Après, les gens, ils trouveront ça tout seuls s'ils veulent, quoi.
Et vous avez une idée un peu des gens qui fréquentent votre gîte ? Une typologie, s'ils viennent de la ville, parce qu'ils s'intéressent au bio en tout cas.
Oui.
Oui, ils viennent en sachant où ils vont. Ils ont regardé à l'Office du Tourisme sur notre site, on met ça en avant, donc c'est clair qu'ils savent où ils vont. Ils ne savent pas forcément de quoi ça parle en réalité, donc sur place, c'est là où ils découvrent, ils apprennent. Mais on a des gens, surtout des citadins effectivement, qui ne sont pas fermés à ça, puisqu'ils viennent là, mais pas plus au courant que ça des fois. Certains, oui, sont bien au fait, mais la plupart, non, découvrent les toilettes sèches, ils n'ont jamais vu avant. Enfin voilà, c'est une découverte pour eux souvent.
N'y a-t-il que des toilettes sèches dans la maison ?
On a les deux, en fait. On a des toilettes... Quand on a construit la maison, il y a un étage, hein, donc on avait deux toilettes à eau. Et puis on est venu après aux toilettes sèches dans la maison. Et on a gardé un toilette à eau. Pourquoi ? Surtout pour des questions de pratique. Enfin, d'abord, ça nous arrive de recevoir du monde, que ce soit dans le cadre professionnel ou non. Donc, bon, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer aux toilettes sèches. Et puis, pour des simples questions pratiques, parce que des fois, ben, les toilettes sont pleines, les toilettes sèches sont pleines. Il pleut, il neige, on est pressé, on va pas les vider dans la minute, et on a quand même besoin de s'en servir. Donc, on est content d'avoir des toilettes à eau dans ces cas-là. Donc, en fait, on a les deux. On se sert en priorité des toilettes sèches et on se sert aussi des toilettes à eau. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas être non plus hyper rigide. On est vraiment très content d'avoir les toilettes sèches et voilà, on s'en sert tous les jours. Mais il peut y avoir aussi des fois où ce n'est pas possible de s'en servir. Donc, c'est bien d'avoir les deux.
Ça, c'est des, tous ces arguments sont bien listés sur votre site, hein, je les ai vus. Tout ce qui fait en sorte que ce gîte est éco sont bien sur le site.
Oui,
oui, oui, on précise justement sur le site, on a une page d'information sur notre façon de le vivre au quotidien, ça, et sans être complètement intégriste. On a voilà, une marge de manœuvre qui fait qu'on fait nos courses aussi comme tout le monde des fois dans un supermarché parce qu'on n'a pas le temps ou l'autre est fermé.
On ne trouve pas tout non plus.
Donc on n'est pas. On fait au plus faire le bio, au plus faire le confort, le sain, le naturel et le local. Et puis des fois, bah voilà, on fait ce qu'il y a, est-ce qu'on peut acheter où on peut. Voilà.
Alors Denis, tout à l'heure tu as un petit peu abordé la question de l'électricité et de l'eau. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus techniquement parlant ?
Sur l'électricité, on a déjà mis tout simplement des ampoules le plus économique possible. Au départ, c'était des ampoules fluo compactes, mais on s'est aperçu que c'était pas très simple. On trouvait que ça sur le marché à l'époque où on a installé le gîte. Et à chaque fois que maintenant une lampe tombe en panne, on met des ampoules LED dernière génération qui sont très très faible consommation. Une qualité de lumière maintenant qui est égale à celle des ampoules incandescentes du passé. Et là, par contre, ça a une consommation divisée par 10 au niveau électrique, donc c'est vraiment intéressant.
Et ça n'émet pas des vibrations néfastes ?
Ça n'émet plus rien de mauvais comme était le fluorescent, c'est pas difficile à recycler, alors que l'autre c'est plein de mercure, enfin voilà, c'est beaucoup plus sain. Puis pour l'eau chaude, on a des panneaux capteurs solaires, qui fait que l'intégralité de l'eau chaude du gîte et de notre maison est entièrement fait avec des panneaux solaires qui nous donnent à peu près 80-90% de l'eau chaude pour 7-8 personnes, toute l'année.
Toute l'année. Et par exemple, un jour où il y a un plafond nuageux obscur ?
Il faut au moins 3 jours de gros gris intense et permanent pour qu'on ait une chaudière à gaz qui prenne le relais, qui vient chauffer l'eau si vraiment on a tous pris des bains et des douches pendant 3 jours.
Rappelle-toi le printemps 2013.
Il y a eu quelques moments où la chaudière a pris le relais, effectivement, l'eau chaude sanitaire, c'est pas du 100% non plus. Mais
on a divisé notre consommation de gaz par 4 depuis qu'on a les panneaux solaires. C'est-à-dire qu'avant, on devait remplir une cuve et demie quasiment par an, hein, quand on n'avait pas les panneaux solaires. Bon, on avait plus d'enfants aussi, hein. Là il y en a 2 qui sont partis. Bon, donc voilà. Et maintenant, on fait une demi-cuve, même pas tous les ans.
Et que ce soit le gîte ou la maison, tout est sur le même circuit ?
Oui. Oui, puisque au début, quand on a construit la maison, on n'avait pas pensé qu'on ferait un gîte. C'est venu après. C'est venu dans un deuxième temps où on s'est dit, tiens, cette surface-là, on en fera un gîte, parce que voilà, il y a déjà trop. Donc oui, on ne pensait pas au départ séparer.
Alors comment vous facturez à vos clients sur une vérité des coûts ?
C'est un forfait en fait. Les gens ils viennent, ils payent une semaine et voilà.
Électricité, eau chaude compris.
On espère juste que ce sera des gens respectueux. Bon, c'est déjà arrivé que ça ne soit pas le cas et c'est dommage. Voilà, c'est déjà arrivé qu'on ne soit pas du tout dans l'échange, ce n'était pas possible. C'est très dommage, mais c'est arrivé qu'une fois, quoi. Sinon, les gens qui viennent, ils sont... Voilà, respectueux du mode de vie, et puis bon, ça se passe très bien.
Et alors, une petite question encore technique, c'est le bois, au point de vue sonique, comment ça se comporte ? Parce qu'ils sont juste derrière, si je ne m'abuse.
Oui. Ouais.
Ils vous entendent parler ?
Alors, derrière notre maison, il y a un sas, puisqu'on a une arrière-cuisine, qui est une pièce qui est isolée de notre côté, y compris du leur. Donc, de notre maison au gîte, on n'entend vraiment strictement rien. Quand on est à l'intérieur de ce sas qui nous sert d'arrière-cuisine et là où il y a toutes les tripes techniques du ballon d'eau chaude, de la chaudière, etc., quand on est dans cette pièce, à la rigueur, on peut entendre...
Si on tend l'oreille.
En tendant l'oreille, on entend ce qui peut se passer dans le gîte. Mais il y a un isolant phonique aussi. De toute façon, voilà, il y a 2 isolants phoniques plus une pièce entre nos 2 espaces. Donc,
on peut pas entendre les conversations. On entend des gens qui parlent éventuellement.
On devine qu'il y a des gens quand on est dans la pièce entre les deux. Mais sinon, non, c'est très très bien isolé.
Est-ce que vous faites partie d'un réseau d'éco-gîtes ?
Alors, on s'est interrogé sur ça. Il y a eu la mise en place des éco-hébergeurs du DIWA. J'ai été aux réunions d'information. Pour l'instant, on se questionne, on se pose encore entre nous des questions sur l'intérêt pour nous d'être, parce que ça vise plutôt, pour l'instant, les très très gros hébergements à 15-20 places, les gros gîtes, mais on était deux ou trois à avoir des petits gîtes de 2-4 personnes, et c'était un petit peu surdimensionné, y compris les adhésions et puis le fonctionnement. Pour nous qui avons un petit gîte, quoi, c'était un petit peu hors les clous pour l'instant. Donc on n'est pas adhérent à quoi que ce soit pour l'instant.
Denis, dans ce gîte rural, on n'est pas coupé d'Internet?
Non, parce que beaucoup de gens demandent à avoir Internet, c'est pratiquement incontournable aujourd'hui. Donc on a mis l'Internet à l'intérieur du gîte, mais par courant porteur en ligne, CPL, ce qui fait que l'Internet arrive par les prises de courant et pas en Wi-Fi pour les ondes, c'est pas très sain. Donc on préfère laisser ce choix d'alimentation électrique pour l'Internet.
Par contre, tu ne proposes pas des sessions d'abstinence Internet, quoi?
Non, les gens ne savent pas s'en passer. Parfois, des gens en vacances, on leur demande d'être en liaison avec leur travail, donc ils en ont besoin. C'est presque incontournable aujourd'hui. Donc, c'est inclus. Même si c'est pas 100% bio, l'écologique et l'Internet, ça fait pas forcément bon usage. Mais voilà, c'est incontournable aujourd'hui.
Et dernière question, est-ce qu'on a envie d'un éco-gîte et quel est le taux de remplissage?
Alors, on n'en vit pas, évidemment, c'est un complément de revenu, simplement. On le loue quelques semaines dans l'été, même pas autant que les gîtes qui marchent à 5 semaines pleines. Enfin, voilà, on loue 3 semaines, 4 semaines maximum l'été en général. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Et puis là, en ce moment, nous avons des locataires pour l'année, pour une période plus longue de 6-9 mois. Enfin, voilà, ça arrive. C'est la deuxième année où on prend quelqu'un à l'année.
Qui est là présentement?
Qui sont là en ce moment. Oui.
Et donc on va les interroger, voir un peu ce qu'ils en pensent de ce gîte, de la qualité de construction.
Voilà, comme ça, voilà. C'est le meilleur témoin.
Très bien. Ben, sur ce, on va y aller et puis je vous remercie de votre disponibilité.
Laissez-nous.
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Donc je me trouve avec Annick et Christiane, clientes actuelles du gîte Laurier Belle. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, pourquoi avez-vous choisi un éco-gîte plutôt qu'un gîte traditionnel non bio?
Non. Alors, nous avons choisi l'éco-gîte pour les qualités de vie à l'intérieur. Nous avons fait la démarche des toilettes sèches parce que nous voulions voir ce que ça impliquait comme travail, comme
contrainte.
Nous avons choisi la région de Montmor parce qu'on adore le Glandas et c'était la région où il y avait vraiment une vue magnifique sur cette montagne. Voilà, en gros, notre choix a été dicté par ces critères.
Et le gîte, en fait, le Rivel, c'était aussi parce qu'ils ont des animaux. Donc il y a une petite ménagerie, moi j'aime beaucoup ça. La chèvre, les poules, enfin, tout ce contact avec la nature très forte, un environnement magnifique. Et puis, je pense quand même, une démarche humaine qui est très particulière. On est avec des personnes qui, ça s'est confirmé, on ne les connaissait pas quand on a découvert ce gîte par Internet, mais des personnes qui sont vraiment dans la démarche à fond et qui sont en adéquation avec leur pensée, donc ça pour moi c'est très fondamental. Et on s'est dit, ben voilà, on n'a pas fait par hasard ce choix, c'est un choix magnifique, puisque éco, pour nous c'était très important un éco-gîte, et qu'on rencontre des personnes qui correspondent à ce qu'on avait nous comme schéma à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'était très bien.
Alors vous avez dit que vous sentiez que c'était fabriqué avec des éco-matériaux, ça se sent d'être dans un bel endroit?
Très. Ouais, c'est très 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 sensible. Ouais. Très sensible. Par exemple, ce que vous voyez là au mur, bon, on ne peut pas le décrire à la radio, mais c'est très, très particulier. C'est très particulier. Il y a une atmosphère, il y a un sentiment de paisibilité qu'on ne découvre pas quand on a des peintures chimiques, quand on a énormément de produits chimiques ou avec des matériaux qui ne sont pas sains. On le sent très, très fort. Ça, c'est vrai.
Donc ici, vous vous sentez bien?
Alors, on se sent très bien. Et puis, il y a une lumière, il y a une très grande baie qui n'est pas mise par hasard. Elle est mise là, au sud, pour des raisons très particulières. Parce que les éco-gîtes, ils sont construits avec un esprit. Donc ça, c'est bien.
D'accord. Et si je ne m'abuse, j'ai entendu dire que vous aviez un projet de fabriquer une maison
écologique. On a trouvé un terrain à Die et on construit une maison bioclimatique.
Et vous avez pompé des idées à droite à gauche dans ce gîte ou quoi ?
Ah non, on avait déjà toute une démarche, très très avant une démarche. Mais notre démarche, elle est confirmée par ce qu'on vit ici aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien.
Donc vous n'auriez jamais été dans un gîte traditionnel ?
Nous sommes allés dans des gîtes traditionnels, mais à partir de maintenant, je pense qu'on va...
C'est-à-dire pour une semaine, pour quelques jours, ça ne pose pas de problème. Mais là, nous sommes ici pour, en tous les cas, 6 mois. Donc, on voulait quelque chose de plus sain. C'est surtout pour ça.
Très bien. Mais Annick et Christine, merci pour votre contribution.
Je vous en prie.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Je suis en compagnie de Jean-Claude Mangoni, initiateur du groupement des éco-hébergeurs de la Biovallée, qui va nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de ce groupement. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Alors est-ce que tu pourras nous expliquer de quoi s'agit-il ?
Alors il s'agit de regrouper les hébergeurs de la Biovallée, donc DIWA plus les autres communautés de communes, qui se définissent comme des hébergeurs un tant soit peu bio, écolo, enfin vous appelez ça comme vous voulez, et qui vont ensemble faire de la promotion, ensemble valoriser le tourisme vert dans la Biovallée, ensemble favoriser les échanges d'idées, l'entraide mutuelle notamment par le transfert de demandes d'hébergement, par des petites formations, par des visites de lieux, etc. etc., etc.
Comment peut-on se targuer d'être un gîte bio ?
On y a beaucoup réfléchi et c'est bien sûr une question très importante. On a défini une charte qui est divisé en 3 thèmes. Le premier thème, c'est l'alimentation et l'approvisionnement. Donc, on demande aux gens d'avoir un maximum d'approvisionnement local et d'utiliser, lorsqu'ils font à manger, des produits qui sont bio ou équivalents. Premier thème. Deuxième thème, l'énergie, l'habitat et l'eau. Donc, faire des efforts au niveau de l'énergie, ça me semble évident. Utiliser des énergies renouvelables, essayer de ne pas gaspiller trop d'eau, etc., etc. Et le troisième thème, c'est un peu tout le reste, sensibilité et action écologique globale, ancrage en territoire, patrimoine naturel, déchets, transport, etc. Et on demande à un hébergeur d'être au moins compétent dans un des thèmes. L'objectif est vraiment de dire « je suis compétent dans un thème », ce soit par exemple l'alimentation ou l'ancrage local, et puis je m'engage à faire des efforts au gré de mes moyens.
Au stade où on est, ce projet qui est quand même somme toute récent, as-tu un bilan à nous proposer ?
Alors, les points de réussite, on n'est pas très très nombreux, mais la dynamique démarre. Là, on est 4 pour le moment. J'ai 4 demandes d'adhésion, donc on sera, j'espère, une petite dizaine début d'année prochaine. Et on n'a pas encore fait de pub dans les autres lieux, hormis le DIWA. Donc on va bientôt attaquer le pays de Saillant, la vallée de la Drôme, le pays de Soux, le pays de Livron, etc., etc. Donc si fin 2014 on arrive à 20 hébergements, je pense qu'on peut s'estimer très 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 content. Est-ce qu'il y a des points d'achoppement ? Oui, peut-être. En fait, comme on est lié à la Biovallée, le préalable pour adhérer à notre groupement est d'être adhérent à la marque Biovallée. C'est un processus qui est un tout petit peu long et qui a un coût, 75 euros par an. Donc il y a un certain nombre de personnes et surtout de petits hébergeurs qui actuellement ne veulent pas franchir le pas.
Est-ce que monter un tel projet a coûté de l'argent ou a demandé un investissement en temps ?
Non, en fait, les seules sorties d'argent actuellement, c'est les frais de représentation dans des foires ou des salons. On a fait la foire de l'Albin dans l'Isère il y a 15 jours de cela, si j'ai bonne mémoire. La semaine prochaine, on sera à la foire de Metz. Il est clair que là, avoir un stand, ça coûte un peu de sous. Mais c'est relativement léger. Pour l'instant, on en est à 60-70 euros par structure. Sinon, ça a demandé du temps, évidemment, parce qu'il a fallu réfléchir ensemble, se coordonner. C'est pas trop, trop évident, puisqu'on est quand même plus dans un monde marqué par la peur et la concurrence plutôt que par l'échange et la collaboration. Donc, il faut absolument, première chose, convaincre les gens que, en collaborant, on va faire mieux au niveau économique et au niveau qualité environnementale. Et puis, ça nous a demandé du temps parce qu'on a dû réfléchir à la charte, au règlement intérieur, etc., etc. Donc, ça demande des réunions et donc pas mal d'heures passées.
À qui peut-on s'adresser pour avoir plus de précisions ?
C'est soit de contacter la Biovallée Anne-Sophie Chupin ou encore plus simple, un petit mail à lalune-en-bouche@free.fr. C'est mon adresse email et de là, je prendrai contact.
Merci Jean-Claude.
À bientôt.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.